Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez sûrement, le lycée de Briançon, lycée d'altitude, a endossé un nouveau nom, c'est-à-dire le lycée d'altitude de Briançon, Suzanne Joulier-Ross. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir qui était Suzanne Joulier-Ross, quel a été son rôle. Donc pour répondre à ces diverses questions, un invité de marque, monsieur Daniel Gilbert, ancien professeur d'histoire du lycée d'altitude de Briançon, qui vient nous aider à éclaircir ce sujet. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Donc la première question que je voulais te poser, c'était du coup de savoir pourquoi le changement de nom est-il survenu au lycée de Briançon.
Alors, tout d'abord une petite rectification, il ne s'agit pas vraiment d'un changement de nom, mais d'une modification de ce nom, puisqu'il s'agit toujours du lycée d'altitude de Briançon, mais modifié en lycée d'altitude Suzanne Joulier-Ross.
Donc ce changement, il est survenu en 2025, est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette année particulièrement ?
L'initiative revient à la région qui a la main sur les établissements du second degré que sont les lycées. Et en avril 2024, le cabinet de Renaud Muselier, président de la région, a contacté le proviseur du lycée de Briançon pour lui indiquer tout simplement que dans cette année donc, de commémoration du 80e anniversaire de la libération de la Provence et du débarquement de Provence, il serait souhaitable que soit rappelé le rôle des résistants dans la libération de la région et notamment des femmes résistantes. Et donc l'idée a été proposée par la région de donner le nom de résistants ou résistantes à un certain nombre d'établissements de la région sud.
Donc est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment on change le nom d'un lycée ? Qui est-ce qui prend la décision finale ? Et quelles ont été donc les étapes ici à Briançon, notamment avec le nom de Suzanne Joulier-Ross ?
Alors, comme je l'ai dit, c'est donc la région qui décide de l'organisation des lycées en France. Et donc, au mois d'avril 2024, la région nous a demandé si l'on souhaitait ce changement de nom, puisque c'est quand même le conseil d'administration des établissements, des EPLE, les établissements publics locaux d'enseignement, c'est le conseil d'administration qui prend les décisions sous la direction donc, du proviseur. Donc, les démarches sont relativement longues, elles ne sont pas forcément complexes, mais cela signifie d'abord une information et une prise de décision de la part du conseil d'administration. La proposition peut venir, comme ça a été le cas de la région, mais c'est l'établissement qui reste souverain. Bien évidemment, cela se passe dans des conditions les plus optimales et en bonne entente. La proposition arrivée au mois d'avril, donc difficile de changer le nom immédiatement. Il a fallu donc un certain temps. Ça n'est qu'à partir du mois de septembre 2024 que les démarches ont pu très concrètement se mettre en œuvre. Et le changement de nom est intervenu dans une cérémonie officielle au mois d'avril 2025, le 10 avril.
Changer le nom d'un lycée, particulièrement le lycée d'altitude de Briançon, c'est sûrement un nom auquel les locaux sont très attachés. Je suppose que ça a suscité des débats, des réticences, tant en interne au lycée que dans la ville de Briançon.
Oui, car Briançon reste quand même un petit isolat, pourrait-on dire. Et donc, bon nombre des gens habitant Briançon n'ont fréquenté que le lycée d'altitude, puisque la partition entre le collège Vauban actuel et le lycée d'altitude ne date que de 1995. Donc, bon nombre des adultes ayant plus d'une quarantaine d'années sont passés par l'unique lycée qui donc accueillait les enfants de la 6e à la terminale. Donc, le lycée d'altitude, c'est une institution dans le Briançonnais.
Maintenant, une question qui brûle les lèvres à tout le monde, c'est de savoir qui était Suzanne Joulier-Ross. Qu'a-t-elle fait pour se voir honorée de donner son nom au lycée d'altitude de Briançon ?
Alors, la crainte des enseignants du conseil d'administration, lorsque la proposition a été faite, c'était que soit imposé le nom d'une personnalité extérieure qui n'aurait pas d'attache dans le Briançonnais, qui serait pour tout dire inconnue. Là, il faut remercier et reconnaître le très gros travail de qualité qu'a accompli M. Patrick Lemaître, donc bien connu à Briançon pour son travail sur le souvenir et les mémoires des deux grandes guerres, et notamment de la Première Guerre mondiale. Et c'est Patrick Lemaître qui, dans les archives, va retrouver cette fameuse Suzanne Joulier-Ross. Alors, cette dame est née en 1920. Elle a suivi son père dans ses pérégrinations, puisque le père était officier donc militaire. Et en 1930, il était lieutenant-colonel à la tête du 159e régiment d'infanterie alpine à Briançon. Il était donc stationné à Briançon. Et Suzanne Joulier a donc fait sa scolarité au lycée de Briançon, où sa mère, par ailleurs, était également professeure de lettres. Donc, c'est quelqu'un qui a fréquenté Briançon, qui a connu Briançon. Elle a passé le bac à Briançon. Elle a été élève donc, de 34 à 39. Et ensuite, donc, bien évidemment, comme beaucoup, elle est partie de Briançon pour faire ses études à Lyon. Là, elle a connu celui qui allait devenir son mari, donc Jacob Ross, d'origine néerlandaise, qui était chimiste. Et donc, Suzanne Joulier, entre-temps, avait abandonné des études qui avaient commencé dans le droit pour ensuite partir vers des études de médecine. Et lorsque la guerre est arrivée, ils étaient tous deux donc dans la région grenobloise, entre Grenoble et la Savoie, et donc ils avaient un enfant. Un enfant est né en 1941. Au début de la guerre, Jacob Ross, qui est d'origine néerlandaise, je l'ai dit, mais également de confession juive, doit fuir. Il rejoint la Grande-Bretagne, où il participera à la guerre au sein d'une unité canadienne en tant qu'interprète. Suzanne Joulier, elle, reste en France. Elle laisse la garde de son fils à ses parents et elle va très tôt rejoindre la résistance comme agent de liaison avec les services de renseignement britanniques. Elle participe ainsi à la guerre jusqu'en 1944. En 1944, elle est contactée par les services secrets français au sein de l'armée, et elle revient sur le Briançonnais pour travailler à la structuration des réseaux donc de résistance en Valois-Pelvoux. Elle va donc en 1944 être à Briançon avec celui qu'elle présente comme son mari, Jacques Tessier, qui est en fait un résistant également, et le couple Tessier va donc, pendant quelques mois, travailler à la mise en place de réseaux susceptibles d'aider la résistance à la libération de Briançon, de participer à la libération donc de la Provence en appui aux troupes qui ont débarqué en Provence. Début 1944, elle participe à ces travaux. Au mois de juillet 1944, elle est arrêtée sur dénonciation avec son mari, son soi-disant mari et donc un autre résistant. Ils vont être interrogés à Briançon. Faute de preuves contre elle-même et l'autre résistant, ils sont libérés, mais mis sous surveillance. Suzanne Joulier refuse de fuir Briançon parce que c'eût été reconnaître son implication et donc son compagnon est toujours prisonnier. Donc elle reste sur Briançon. Elle sera arrêtée quelques jours après, le 10 juillet 1944, elle est arrêtée. Elle est ensuite interrogée, transférée sur Gap. Et ce que nous apprennent les archives, c'est que transférée à Gap, donc à la caserne des Michel. Elle y meurt le 15 juillet 1944. La veille, 14 juillet, elle a été atteinte accidentellement, d'après les documents, par une rafale de mitraillette qui serait tombée au sol. Elle va donc décéder le 15 juillet 1944 et donc sera dans un premier temps inhumée sur le Gapençais avant de repartir. Elle est aujourd'hui dans le caveau familial à Nantes.
Donc, est-ce que tu peux préciser un peu le rôle qu'elle a joué dans la résistance briançonnaise, particulièrement dans ce qu'on pourrait appeler le maquis ? Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux préciser un peu le rayon d'action du maquis et donc le rôle de Suzanne Joulier-Ross au sein du maquis Valois-Pelvoux ?
Alors, comme pour bon nombre de résistants, il y a très peu de traces écrites qui permettent de préciser ce qu'a été le rôle de tout un chacun, ou en tout cas de ces personnes-là. Ce qui est certain, c'est que donc, son envoi dans le Briançonnais correspondait à la mise en place donc, de réseaux profonds d'aide aux troupes qui allaient débarquer. Les troupes américaines donc, ont débarqué à la suite du débarquement de Provence, le 15 août, et l'armée américaine va remonter la vallée du Rhône. Une partie va prendre la vallée de la Durance et venir aider à la libération de Briançon en août 1944. Dans un premier temps, le 23 août, la ville est libérée par une petite donc, unité américaine qui vient en appui des maquis de Béassac et de Dupelvoux et du Briançonnais, bien évidemment, puisqu'il y a une forte résistance armée dans la ville de Briançon. Les résistants dont vont libérer la ville, les Allemands se replient sur le col de Montgenèvre et de là vont bombarder Briançon et les villages avoisinants, ce qui entraînera la destruction de Puy-Saint-Pierre, de Villars-Saint-Pancras, de Servières et donc des obus qui tombent sur Briançon. Briançon a subi ou a connu une double libération plutôt, puisque à partir du 29, les troupes allemandes reviennent dans Briançon, prennent en otage notamment les notables, et il faudra attendre début septembre pour que la ville soit définitivement cette fois-ci libérée notamment par ses propres résistants. Et à la suite de cela, donc, les troupes allemandes se replieront à nouveau de l'autre côté de Montgenèvre et jusqu'en février 1945 bombarderont le Briançonnais.
Donc est-ce qu'on peut expliquer de manière un peu plus précise en quoi consiste réellement le maquis, du coup particulièrement celui des Valouises et des Vignaux?
Alors c'est très intéressant parce que la libération, la résistance en France et la libération ont été portées par les forces internes, ce qui permettra à Charles de Gaulle d'assumer, de prétendre que la France s'est libérée par elle-même. Qu'est-ce qui a nourri ce que l'on appelle les maquis ? Les maquis, ce sont donc les gens qui ont rejoint la clandestinité à partir de 1941-42 pour résister à l'occupant allemand. Ces forces des maquis étaient nourries par deux choses. D'abord, dans un premier temps, des résistants de la première heure, souvent recherchés par la police, notamment parce qu'ils provenaient, et c'est ce qui fera ensuite le poids du Parti communiste français dans la vie politique de l'après-guerre. Le Parti communiste français a subi, si je puis dire, le poids du pacte germano-soviétique de 1938. À partir de 1938, les communistes sont vus comme des traîtres, puisque donc ils sont qualifiés d'inféodés à Moscou, et Moscou a signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne. Donc, dès 1938, le Parti communiste entre en semi-clandestinité dans la mesure où il met de façon clandestine en œuvre des moyens de propagande, des moyens de communication qui lui seront d'ailleurs très utiles à partir du moment où les Allemands entreront en France, parce que les moyens de communication et de diffusion seront déjà prêts pour le Parti communiste. Et le Parti communiste va être effectivement un des tout premiers organes à organiser la résistance. Mais ce qui a aussi nourri à partir de 1942 et surtout 1943 les maquis, ce sont tous les réfractaires au service du travail obligatoire. À partir de cette date-là, les gens donc, ne souhaitant pas partir travailler pour l'occupant en Allemagne s'enfuient tout simplement, sont recherchés par la police et donc rejoignent la clandestinité et les lieux où on ne va pas les chercher, où la police ou les forces allemandes ne vont pas les chercher, ce qui fait que les endroits les plus reculés vont se peupler de populations, donc de jeunes hommes résistants qui seront à la base de la libération. Encore faut-il que ces personnes soient formées, soient encadrées et formées à la lutte armée. Ce qui fait que très rapidement, les services secrets, notamment britanniques, vont effectuer des parachutages d'armes, de munitions, etc., mais aussi envoyer des cadres, des soldats, en tant que formateurs pour ces recrues. Et donc, c'est ce qui permettra, après un an et demi, deux ans de formation, d'avoir des troupes en soutien aux troupes qui ont débarqué. Alors, à ne pas oublier, bien évidemment, que parfois, le nombre de ces maquis la densité de ses maquis et les actions qu'il pouvait conduire gênaient très fortement l'occupant, ce qui fait que les Allemands ont, dès 1943, lancé des opérations pour réduire ces maquis, et on pensera notamment au maquis du Vercors, le plateau des Lières, etc. Dans la libération des Hautes-Alpes, par exemple, Mont-Dauphin a été libéré par les maquis de l'Embrunet, sans trop de difficultés, mais les troupes qu'il y avait les Hautes-Alpes n'étaient en rien comparables à celles que l'on pouvait trouver autour de régions comme Grenoble.
Pour revenir un peu sur Suzanne Joulié-Ross, on sait qu'elle reçoit, après la guerre, des distinctions à titre posthume. De quelle manière la République reconnaît son engagement révolutionnaire et son rôle dans la libération, à travers quelles distinctions qu'il l'honore ?
Alors, Suzanne Joulié, effectivement, a été décorée à titre posthume de la médaille de la Résistance, de la Croix de guerre 1939-45 avec palme. Elle est également chevalier de la Légion d'honneur et elle a reçu une distinction britannique puisqu'elle est décorée de l'ordre du chevalier de Saint-Georges. Que c'est une résistance éminente reconnue par la République française. L'une des difficultés à reconnaître le travail de ces résistantes, c'est lié à deux choses. D'une part, très peu, dès 1945, ont fait connaître ce qu'elles avaient accompli. La même chose pour leurs homologues masculins, pour leurs camarades. Très peu de ces résistants qui s'étaient engagés tout simplement du fait d'une certaine opinion qu'ils avaient de la liberté et de leur pays. Très peu s'en sont vantés, bien évidemment. Il ne s'agit même pas de vantardise, il s'agit simplement de témoigner de ce qu'ils avaient fait. Ça n'est que plusieurs décennies plus tard, à partir des années 1980, que l'opinion publique a fait comprendre à un certain nombre de ces résistantes et résistants, mais aussi leur propre appréhension, compréhension du monde dans lequel ils vivaient, où ils se sont aperçus que finalement, il fallait faire connaître le combat pour éviter le retour de ce type de comportement dans les relations internationales. Je n'aime pas trop ce terme d'éviter parce que, en tant que professeur d'histoire, je sais bien qu'on n'apprend jamais trop. Par contre, on n'apprend jamais de l'histoire. Les sociétés humaines ont une forte propension à retomber dans les mêmes ornières. Ceci étant, ce que peuvent montrer les résistantes et résistants lorsqu'ils parlent, c'est nous faire comprendre qu'on n'est pas on n'a pas le droit de passer à côté et que si des catastrophes se produisent à nouveau, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et ça, là, ça nous renvoie à notre propre responsabilité. Le point essentiel de ce travail que font les résistants, c'est de nous mettre face justement à nos responsabilités. On savait.
Et du coup, est-ce que le fait de donner le nom d'une résistante à un lycée, d'autant plus, ça participe donc forcément à un travail de mémoire, mais aussi du coup un travail d'information, de sensibilisation peut-être aux élèves.
Mémoire, sensibilisation, oui. Alors mémoire de ce qui s'est passé. Connaissance aussi pour les Briançonnais d'une femme qui est morte pour leur liberté et que, je crois bien, la quasi-totalité ignorait totalement, à commencer par moi-même. Nous ignorions totalement le rôle et même le nom de cette dame jusqu'à ce que Patrick Lemaître, en 2024, nous signale son existence. Et donc, il n'y a rien à dire, absolument rien, sur le choix qui a été fait. Il est, je pense, l'un des plus pertinents qu'il puisse y avoir. D'une part, parce qu'effectivement, il reconnaît le rôle et la place de cette femme dans la liberté dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui. Et aussi, il permet quand même de remettre, de montrer que rien n'est jamais acquis et que ce qu'a fait là Suzanne Joulié nous interroge sur notre capacité justement d'oubli, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a tendance finalement à laisser courir les choses et à partir du moment où la paix est revenue, eh bien on ne se pose pas trop la question de savoir à qui et pourquoi elle est due.
Et j'ai cru comprendre que les élèves du lycée eux-mêmes avaient mené des recherches pour comprendre donc le changement de nom ou l'évolution du nom du lycée. Je suppose que c'est une bonne chose, mais pédagogiquement, qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, pédagogie, c'est le fait d'abord que les élèves soient constructeurs de leur savoir, c'est-à-dire qu'ils sont allés eux-mêmes à la recherche de qui était Suzanne Joullier, pourquoi elle était là, pourquoi on voulait changer le nom de l'établissement. C'est aussi une façon de travailler sur les commémorations. Qu'est-ce qu'une commémoration ? Pourquoi commémorer tels événements ? Commémorer, ça n'est pas fêter. On peut fêter une libération, on ne fête pas la mort d'un résistant. Donc commémorer, c'est maintenir le souvenir de quelqu'un, le faire entrer dans le patrimoine intellectuel donc de la société briançonnaise. Et puis, permettre à cette femme, donc, qui n'a pas eu en 1945 la reconnaissance qu'elle méritait, parce que véritablement elle l'avait, sur la place de Briançon, lui donner, 80 ans après, le rôle qu'elle mérite dans la société briançonnaise d'aujourd'hui.
Et je suppose que pour les élèves, donc, ce travail de recherche, il est passé par une exploration des archives, peut-être des entretiens avec le monsieur dont... Tu as mentionné le nom tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, pour faire vraiment une démarche intellectuelle de recherche, de travail de recherche, de curiosité, qui est d'ailleurs accessible à tout le monde dans le cadre des archives, par exemple.
Les archives sont publiques, ouvertes à toutes et tous, à partir du moment où on a un sujet de recherche. La recherche historique est une science, donc on émet des hypothèses, on essaie de les vérifier. Et ensuite, on essaie de synthétiser un petit peu tout cela. Ce qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est de montrer ce qu'est l'histoire en construction, c'est-à-dire de montrer aux élèves que rien n'est établi d'avance et que ce qu'ils ont fait là comme travail participe à la construction de l'histoire. C'est-à-dire que s'ils ne font pas ce travail, Suzanne Joullier reste inconnue. Si le nom n'est pas donné, elle peut rester inconnue encore des années. Bon, il ne s'agit pas là de quelque chose qui va changer la perception que la société française a de la libération, ni que les Briançonnais ont de la libération d'Heurville, mais il s'agit là de la construction véritablement de l'histoire au quotidien. Et les élèves en sont ici les acteurs. Et ça s'est fait non seulement à travers donc, la recherche en archives, le travail de... Malheureusement, nous n'avons plus de sur Briançon aujourd'hui parce que ça fait bientôt un siècle. Donc, nous n'avons plus de témoins de cette époque-là qui auraient été aptes donc, à fournir un complément s'ils avaient pu connaître Suzanne Joullier, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi travailler sur la perception qu'ont les Briançonnais de cela. Dans un premier temps, la réaction des Briançonnais lorsque les élèves sont allés interroger dans un micro-trottoir donc les Briançonnais, la première réaction des Briançonnais, c'est notre lycée, on l'a toujours connu, donc pourquoi changer le nom, lycée d'altitude, c'est très bien. À partir du moment où on leur explique qui est Suzanne Joullier, son rôle, etc., ça ne pose pas de problème de prendre le nom. Au contraire, certains le font avec enthousiasme, notamment dans un contexte qui est aussi celui de reconnaissance de la place des femmes dans la société. Et dans tous les aspects de la société, y compris ce qui, pendant très longtemps, a paru être l'apanage des hommes, c'est-à-dire la défense armée de la nation, de la politique, etc. Il ne faut quand même pas oublier que lorsque Suzanne Joullier agit, les femmes n'ont pas encore le droit de vote, puisqu'il n'arrivera qu'à l'issue de la guerre. Et la seule concession, si je puis dire, qui a été faite finalement, ça a été d'accoler le nom de Suzanne Joullier au lycée d'altitude et non pas de substituer les deux noms.
Si tu as quoi que ce soit à rajouter, un aspect à côté duquel on est passé.
Ce qui peut être intéressant, c'est de replacer le changement, enfin la modification de nom du lycée d'altitude dans une perspective un peu plus vaste, c'est-à-dire de voir comment les sociétés aujourd'hui s'approprient leur passé. C'est vrai que la ville de Briançon a connu de multiples mutations depuis un siècle. On était une société agro-pastorale relativement pauvre depuis le traité d'Utrecht, qui avait quand même mis à mal l'économie briançonnaise. Et le XXe siècle a vu le Briançonnais se développer sur des bases liées d'abord à l'armée, l'armée, ensuite au climatisme, puis au tourisme. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, serait souhaitable qu'on retravaille un petit peu pour que les Briançonnais, qui, avec beaucoup de guillemets, qui débarquent aujourd'hui, aient un petit peu plus conscience de ce qu'est le passé de cette ville. La ville n'a pas vécu tout le temps sur le ski. Et d'ailleurs, il y a peu de chances qu'elle continue pendant longtemps à l'être.
Eh ben, merci beaucoup pour ton intervention, toutes ces précisions, toutes ces informations que tu donnes à propos de ce changement du nom du lycée qui est quand même un événement en soi, culturellement parlant et mémoriellement parlant, si le terme est exact. Je suppose que tous les auditeurs seront ravis de ton intervention. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à toi.